autour de la question. Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour prendre des nouvelles du cosmos. Quoi de neuf dans l'univers et comment le découvrir? Puisque seule une infime partie de l'univers observable nous est accessible, ici et maintenant, comment ouvrir de nouvelles fenêtres astronomiques, grâce notamment aux ondes gravitationnelles? Comment comprendre la dynamique des planètes et des exoplanètes, la naissance des étoiles ou l'explosion d'une supernova? Qu'est-ce que l'accélération cosmique et pourquoi tout tourne en rond, même les trous noirs? Rassurez-vous, nous nous arrêterons au bord sur la première photo d'un trou noir en compagnie de nos invités, les astrophysiciens Roland Lehoucq et Thierry Foglizo du CEA, qui vont tenter de nous rendre visible l'invisible autour de la question « Quelle nouvelle du cosmos ?» Bienvenue. Bonjour Roland Lehoucq.
Bonjour.
Bonjour Thierry Foglizio.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager les dernières nouvelles du cosmos. C'est le titre du numéro d'avril de la revue Clé du CEA à laquelle vous avez participé. Roland Lehoucq, vous êtes astrophysicien au département d'astrophysique du CEA, enseignant à l'école polytechnique. Nos auditeurs vous connaissent aussi comme un formidable passeur de science, grâce notamment à la science-fiction. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Faire de la science avec Star Wars, et vous êtes également le président du Festival de science-fiction et de tous les possibles, Les Utopiales, à Nantes. Alors, l'éminent chercheur que vous êtes, n'hésite pas à soulever et à partager avec nous les questions les plus vertigineuses et les plus sidérantes. Ainsi, dans ce numéro de la revue Clé du CEA, vous commencez très fort, Roland, par la plus fondamentale, peut-être, et la plus énorme des questions. Qu'est-ce que l'univers? Est-ce qu'il est possible de répondre à cette question-là en une ou deux minutes?
Alors oui, on peut donner des éléments de réponse et on a d'abord réalisé qu'il y a plusieurs réponses. C'est-à-dire on peut d'abord dire l'univers, c'est l'ensemble de toutes les choses, de tous les événements. Et bien sûr, de cet énorme ensemble, on n'a accès qu'à une partie. C'est-à-dire on n'a accès qu'aux éléments, qu'aux événements dont on a reçu de l'information, essentiellement sous forme de lumière, mais aussi avec des particules qui nous parviennent de l'espace, et encore, maintenant, récemment, sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc il y a d'une certaine façon l'univers, l'ensemble de toutes les choses, mais on ne peut pas parler de toutes ces choses en les ayant observées directement, on ne peut parler, par définition, que de l'univers observable, qui est l'ensemble des choses dont on a reçu de l'information. Et à partir de ce que les astrophysiciens et les astrophysiciennes observent de l'univers observable, eh bien, elle essaie de construire un univers modèle qui va essayer de rendre compte, un univers mathématique qui est décrit par des équations, mais qui est aussi implémenté sous forme de programmes de simulation numérique dans des ordinateurs. Et cet univers modèle doit essayer, en mettant les bons ingrédients, de rendre compte de l'univers observable et d'avoir la plus grande cohérence possible entre finalement ce que l'on voit et ce que l'on sait de la physique qui a été élaborée sur Terre en laboratoire.
J'ai quand même envie de citer dans ce numéro de Clé du CEA l'astrophysicienne Catherine Cesarski qui dit que l'univers a toujours plus d'imagination que les hommes. Thierry Foglizio, vous êtes astrophysicien également, chef du laboratoire de modélisation des plasmas astrophysiques au CEA sur le plateau de Saclay, et vous non plus, vous ne manquez pas d'imagination pour tenter de comprendre un des phénomènes, pour le coup, les plus cataclysmiques de l'univers, l'explosion d'une supernova, l'explosion d'étoiles massives à l'origine de la formation des trous noirs et des étoiles à neutrons. C'est un vrai défi aujourd'hui pour les astrophysiciens de comprendre ce processus.
Alors, effectivement, cette explosion des étoiles massives pose problème aux théoriciens parce que c'est quelque chose qu'on observe depuis très longtemps, mais dont l'explication est encore mystérieuse. Et on tient à comprendre pourquoi les étoiles explosent, parce que elles ont des conséquences énormes. La première, peut-être, c'est celle de comprendre d'où viennent les éléments qui nous constituent. En fait, au cours de l'explosion, l'étoile va disperser dans le milieu interstellaire les éléments qu'elle a synthétisés au cours de sa vie. Et pendant l'explosion, de nouveaux éléments vont aussi être synthétisés par nucléosynthèse explosive. Et donc, comprendre les supernovas, c'est comprendre d'où viennent les éléments qui nous constituent.
Oui. Nous sommes tous des poussières d'étoiles, disait un célèbre astrophysicien.
Exactement.
Autour de la question, quelle nouvelle du cosmos, avant de nous arrêter sur la toute première image vertigineuse d'un trou noir, on commence notre sidérant voyage dans le temps et dans l'espace par une interrogation toute simple. Pourquoi tout tourne en rond dans l'univers, à commencer par notre petite planète? Depuis quand a-t-on représenté le monde en sphère? Et pourquoi ce modèle sphérique inspire toujours les astrophysiciens? Une exposition à la Bibliothèque nationale de France, Le monde en sphère, qui a d'abord été présentée au Louvre d'Abu Dhabi, retrace l'histoire de la représentation sphérique du monde. On remonte jusqu'à Pythagore avec l'une des commissaires de cette exposition, Catherine Hoffmann de la BNF, interrogée par Raphaël Constant.
Donc le monde en sphère, c'est une hypothèse qui est née dans la Grèce antique à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, dans les cercles pythagoriciens. Une idée qui est basée sur l'observation des phénomènes cycliques du ciel, mais aussi sur une espèce d'intuition philosophico-mathématique qui veut que le démiurge, le créateur de l'univers, ait choisi comme forme du monde la forme géométrique considérée comme la plus parfaite, c'est-à-dire la sphère. L'idée est émise par Pythagore, elle est développée par Platon et Aristote, qui posent en fait les dogmes de ce système en plaçant la Terre comme sphère immobile au centre de l'univers, les planètes tournant autour de la Terre dans un mouvement de rotation uniforme, jusqu'à la sphère des étoiles, qu'on considérait comme la clôture du monde. Ça a permis en fait d'avoir un modèle mathématique qui a permis de prédire avec plus de précision le mouvement des astres sur lesquels sont fondés en fait les calendriers. Ça a permis aussi de définir une géographie à partir du positionnement des lieux en fonction de leurs coordonnées géographiques, les longitudes, les latitudes. Donc ça a permis un développement de l'astronomie et de la géographie dès l'Antiquité.
Le monde en sphère, c'est à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Alors tout est rond, tout tourne en rond, sauf que depuis Pythagore, on sait que la Terre n'est plus au centre. Mais quand même, tout est rond et tout tourne en rond dans notre univers, Roland Lehoucq.
Oui, c'est vrai que la Terre a une forme approximativement sphérique. Maintenant, on sait ça beaucoup mieux, évidemment, depuis la géodésie de précision. Mais la Terre a en première approximation une forme sphérique. La Lune, quand on l'observe dans le ciel, on a l'impression aussi qu'elle a une forme sphérique. Le Soleil lui-même a une forme sphérique. Et toutes ces formes sphériques résultent d'une chose, en tout cas pour les objets assez gros, parce que nous-mêmes ne sommes pas sphériques.
Pas
les voitures
sache,
ne sont pas sphériques. Plein de choses ne sont pas sphériques non plus. Mais à partir d'une certaine taille, on peut regarder, par exemple, les petits corps du système solaire ne sont pas sphériques, les petits astéroïdes. En revanche, les plus gros satellites des planètes, la Lune, mais aussi Io, aussi Ganymède, ou Encelade, ou Titan, pour Saturne, eh bien, sont des objets sphériques. Et donc, on constate qu'à partir d'une certaine taille, d'une certaine masse, les objets sont sphériques, et ça résulte du fait qu'à partir de cette masse, eh bien, c'est la gravité qui va dominer la structure de l'objet, qui va fixer la structure de l'objet. La propre gravité de l'objet va imposer sa loi à l'objet lui-même.
Et donc cette forme ronde.
Et comme la gravité est une force que l'on dit asymétrie sphérique, c'est-à-dire que l'intensité de la force gravitationnelle entre deux corps ne dépend que de leur distance et pas de leur position relative l'un par rapport à l'autre dans l'espace, mais uniquement de la distance qui les sépare, c'est une force asymétrie sphérique, eh bien un corps dominé par sa propre gravité adoptera spontanément la forme sphérique. À peu de choses près, il peut être un peu en rotation, ça va induire une force centrifuge qui va légèrement l'aplatir. La Terre, déjà, un léger aplatissement au niveau des pôles, c'est plus sensible pour Jupiter. Et puis, il peut y avoir après des fluctuations. Il y a des montagnes, il y a des creux sur la Terre, et donc il y a des fluctuations autour de cette forme sphérique modelée, disons, par la rotation propre de l'objet.
Donc la sphère intéresse les physiciens et les astrophysiciens.
Absolument, intéresse les physiciens et l'astrophysique. Il y a plein d'objets aussi qui ne sont pas sphériques. Si on regarde une galaxie, par exemple, qui est un objet en rotation, c'est pas du tout sphérique, mais on peut comprendre sa forme aplatie par le fait que la force centrifuge a été suffisamment forte pour que finalement de la sphère, imaginons un modèle très simple, très même simpliste, diraient les spécialistes de la formation des galaxies, mais de la matière qui se condense et veut s'agglomérer de toutes directions, donc à peu près à symétrie sphérique, mais que cette matière elle a aussi un mouvement de rotation initialement très lent, qui est dû simplement au hasard du mouvement des choses, mais le simple fait que ça se ramasse, ça va accélérer le mouvement de rotation, donner plus d'importance à la force centrifuge, et qui, si elle est assez forte au regard de la gravité propre de l'objet, peut l'aplatir pour en faire quelque chose qui ressemble plus, disons, à une crêpe en rotation qu'à une sphère en rotation, comme on le voit pour les corps solides.
D'accord, donc on passe de la sphère solaire ou de la boule de neige à la crêpe. Est-ce qu'on pourrait dire que l'univers tout entier est sphérique ?
Alors ça, c'est assez difficile à dire, dans la mesure où la sphère, on peut l'apprécier de l'extérieur, on dit cet objet sphérique de l'extérieur. Alors l'univers...
Ah oui, il faut être en dehors,
alors,
bien
il
sûr.
Faut, disons que c'est la façon canonique que nous avons de parler d'une sphère. Mais en même temps, on pourrait, on n'a pas eu besoin de sortir de la surface de la Terre pour se rendre compte qu'elle était sphérique. On sait que la Terre est sphérique bien avant les premiers satellites, bien avant, depuis l'Antiquité, on sait que la Terre est sphérique, on a même mesuré sa circonférence dès l'Antiquité. Donc, l'univers, on ne peut pas en sortir, mais on pourrait dire s'il est sphérique, ce qui ne veut pas dire qu'il a la forme d'une sphère, ce qui veut dire qu'il a la géométrie d'une sphère. Et pour cela, il faut mener l'investigation dans l'univers observable. En fait, encore une fois, l'univers, c'est toujours pour les astrophysiciens l'univers observable, même si on ne dit pas systématiquement univers observable, c'est ça qu'il faut comprendre.
C'est notre horizon, enfin notre
c'est
horizon
cosmologique. C'est l'ensemble des choses dont on a de l'information par la lumière qui est bornée par un horizon effectivement cosmologique. Et de cet univers observable, de sa démographie, de son contenu matériel et énergétique, il faut essayer de déterminer quelle va être sa géométrie, les deux étant liés. Et il se trouve que le meilleur modèle dont nous disposons actuellement, qu'on appelle le modèle de concordance, le meilleur modèle qui décrit l'univers observable, c'est un modèle qui a une géométrie, disons, quasi-euclidienne. Comme on dit quasi-euclidienne, ça veut dire plane, comme la géométrie plane, qui a les mêmes propriétés géométriques que le plan. Et donc pas sphérique, donc pas avec une géométrie qui serait plutôt celle de la sphère en rapport, si on la compare à celle d'une surface plane.
Alors quelle forme a l'univers ? Voilà qui suscite beaucoup de questions. Je propose à ce sujet, avant d'y revenir, d'écouter le plus célèbre peut-être nos astrophysiciens, j'ai nommé Hubert Reeves.
Alors quelle est la forme de l'univers ? Eh bien ce qu'on sait, c'est que l'univers n'a pas de centre et pas de frontières. L'univers, en résumé, c'est partout pareil. Où que vous alliez dans l'univers, selon la théorie et les observations partielles, vous verrez toujours des galaxies à perte de vue. Des galaxies proches de vous, des galaxies lointaines, des galaxies jusqu'à l'horizon. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de frontière de l'univers. Ça, c'est la donnée qui est la plus compatible avec les observations.
Nous voilà bien dans un univers qui est partout pareil, où il n'y a pas de centre et pas de bord. Thierry Foglisio, vous voulez réagir à ces propos d'Hubert Reeves, nous éclaircir un petit peu notre univers, parce que là on est perdu hein, dans l'univers.
Alors c'est vrai que cet univers est sphérique et ça nous arrange bien en tant que théoriciens, puisque c'est l'objet le plus simple mathématiquement à décrire, donc il suffit de peu de paramètres pour décrire une sphère. Et donc les modèles cosmologiques actuels considèrent l'univers avec une homogénéité, sans une sphère centrée sur notre position, puisque comme l'a dit Roland, l'univers observable dépend du temps qu'a mis, de la distance qu'a parcouru la lumière pour arriver jusqu'à nous depuis le Big Bang. Mais cet univers quand même est sphérique, mais il est en expansion, il est en expansion accélérée.
Il est en expansion accélérée, donc il n'y a pas de forme, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de bord, mais ça ne cesse pas enfin, c'est inimaginable, ça ne cesse pas de s'étendre.
Voilà, c'est pas aussi simple qu'une sphère statique, et en particulier le fait que l'expansion ne soit pas balistique, mais accélérée, ça pose des tas de questions aussi, de comprendre d'où vient cette espèce d'énergie noire qui expliquerait cette expansion
accélérée. Avant d'en arriver à l'énergie noire, on a déjà du mal, Roland Lehoucq, que c'est vrai, à comprendre. On est dans un univers en expansion accélérée, totalement infini, sans centre, sans bord. Alors évidemment, nous, on n'est plus au centre, ça fait longtemps qu'on le sait, mais on découvre qu'on est quoi, de plus en plus dans la banlieue de l'univers.
Il faut préciser quand même un certain nombre de choses, c'est-à-dire que quand on dit l'univers est infini, on est en train de parler du modèle qui décrit l'univers observable, qui par définition est fini, puisque les objets de l'univers n'ont pas toujours existé.
Et alors donc, attendez, vous dites que le modèle observable dont on se préoccupe, lui, il est fini.
Il est par définition fini, c'est un ensemble fini d'informations que nous recevons de l'univers, grande mais fini, qui correspond à l'ensemble des informations dont nous avons pu, de l'ensemble des objets dont nous avons pu recevoir de la lumière depuis qu'ils sont apparus, depuis que l'univers le Big Bang, pour dire simple, depuis que l'univers est là. Et donc, du coup, de ce volume fini, nous sommes forcément au centre, comme on est toujours au centre de son horizon sur un bateau, et ça a la forme d'une sphère, parce que l'information nous vient de toutes les directions. Et on décrit cette zone par un modèle mathématique qui a des propriétés d'être infini. Mais vous voyez, il faut quand même faire attention. Si vous êtes sur votre bateau, vous regardez autour de vous, vous dites, tiens, c'est marrant, la Terre est plate jusqu'à l'horizon. Mmh. Et vous pouvez décrire localement tout ce que vous percevez comme un plan infini, si ça vous fait plaisir. Mais évidemment, c'est faux. La Terre sous-jacente, elle, est finie et à géométrie sphérique. Donc, dans le cas de l'univers, le modèle qui décrit le mieux, pour l'instant, l'univers observable, c'est un modèle mathématique qui a une géométrie plane, je dirais euclidienne, comme la géométrie plane habituelle, pas sphérique, n'a pas la géométrie de la surface d'une sphère, et qui est infini. Mais ce modèle mathématique ne doit pas être confondu avec l'univers réel. Et donc quand on parle de forme de l'univers, on pourrait préciser une toute petite chose au propos d'Hubert, c'est que cette forme de l'univers, ça relève de propriétés globales de l'univers. Alors que quand on parle de sphérique, on va parler plutôt de la géométrie qui est une propriété locale. La géométrie, c'est la question de savoir comment on mesure, comment on détermine la distance entre deux points. Et ces deux points assez proches, et quand les deux points sont éloignés, eh bien de proche en proche, on va calculer la distance par une petite chaîne d'arpenteur dans l'univers dans lequel on évolue. En pratique, la chaîne d'arpenteur, c'est la lumière, ce ne sont pas bien sûr des humains qui se déplacent. Et la forme, c'est une question globale, et on peut imaginer des surfaces, si on prend l'exemple des surfaces, parce qu'à deux dimensions, on peut s'en extraire et les voir comme de l'extérieur, ce qui nous facilite la pensée. Mmh. Si vous prenez une surface plane, elle peut avoir déjà une plane comme une feuille, avec des bords, plane comme une feuille infinie, une immense feuille qui n'a pas de limite. Mais si vous prenez cette feuille et vous la repliez en identifiant deux bords opposés, ça fait un cylindre. Voilà une surface qui a la même géométrie, mais qui n'a pas la même forme. Un cylindre, un plan infini, ce n'est pas pareil. Et si ce cylindre, vous le repliez sur lui-même, encore une fois, vous obtenez ce qu'on appelle un tore plat. Et la surface du tore a la même géométrie que le plan, et ça n'est pas du tout la même forme que le plan. Et donc on voit que la notion de forme fait appel à des propriétés globales qui relèvent d'une discipline des mathématiques qu'on appelle la topologie, tandis que la géométrie relève d'une discipline qui s'appelle la géométrie, et qui s'intéresse à des propriétés locales.
Et qu'on peut comprendre très bien par cette démonstration en origami et
Exactement. La topologie est une discipline très visuelle, où on peut, en manipulant des objets, des surfaces, des feuilles, des objets déformables, on peut essayer de comprendre un peu les choses.
Et on peut comme ça essayer de comprendre, parce que c'est ça aussi qui est présent dans ce numéro, la dynamique des planètes et des étoiles, parce que c'est... Alors, on a parlé d'accélération, mais tout ça, c'est en mouvement perpétuel.
Alors, il y a l'univers dans son ensemble, qui relève d'une discipline qui s'appelle la cosmologie, puis il y a aussi le contenu de l'univers, les objets qui peuplent l'univers, les galaxies qui sont formées d'étoiles et de gaz et d'autres choses, et les étoiles qui ont éventuellement des planètes qui orbitent autour d'elles, et ces planètes qui ont éventuellement des satellites, et ces satellites ou ces planètes qui ont éventuellement des consciences qui pensent, en tout cas il y en a
c'est
au moins
ça,
un sur un
tiers. Multiplié par des milliards de milliards.
Donc dans l'univers, il y a des objets, et donc l'étude de l'univers dans son ensemble, c'est pas la même chose que l'étude des objets qui peuplent l'univers, mais les deux peuvent être liés, parce que bien sûr, quand on s'interroge sur la formation des grandes structures de l'univers, les galaxies et les amas de galaxies, on ne peut pas faire ça indépendamment de la dynamique globale de l'univers, de cette expansion globale, alors que l'évolution de la Terre autour du Soleil, enfin le mouvement de la Terre autour du Soleil ou la dynamique de notre galaxie n'est absolument pas influencée par la dynamique globale de l'univers, de son expansion accélérée par exemple. Donc du coup, on se retrouve à... Il y a des échelles de taille où il y a des liens entre la grande structure de l'univers et les objets qui nous intéressent, par exemple les amas de galaxies. Et à l'inverse, il y a des échelles de taille comme la Terre, bien sûr, le système solaire ou notre galaxie, où ça n'a absolument aucune importance. Donc il peut y avoir un découplage entre des grandes échelles et des échelles plus petites, de sorte que l'on peut étudier une galaxie sans se préoccuper, ou les galaxies, leur évolution, sans se préoccuper absolument de ce qui se passe à la grande échelle de l'univers. Et il y a d'autres situations. Si vous vous intéressez cette fois-ci à la formation des amas de galaxies, alors il faut tenir compte d'une façon ou d'une autre de l'évolution globale de l'univers.
Je propose de reprendre notre souffle, les pieds sur Terre, sur notre petite planète, et la tête dans les étoiles, bien sûr, à l'écoute de Catherine Ringer sur RFI, La Petite Planète.
Voilà l'histoire planète sur les bords d'une galaxie. Une jolie petite planète pleine de fureur et de bruit qui faisait gentiment le tour de son soleil pendant que les habitants jouaient dès le réveil. Il faisait de la musique.
Planète de Catherine Ringer sur RFI. Autour de la question « Quelle nouvelle du cosmos ?» arrêt maintenant sur l'image peut-être la plus cataclysmique de l'univers, celle d'une supernova, l'explosion d'une étoile massive. C'est ce processus, entre autres, qui est à l'origine des trous noirs et des étoiles à neutrons, avant de percer un peu du mystère des supernovas avec nos invités, Thierry Foglizo et Roland Lehoucq du CEA. Nous proposons d'abord un voyage interstellaire dans l'infiniment grand, extrait de la web-série d'Univers Science consacrée aux débris de supernovas, qui ont particulièrement inspiré l'auteur Emmanuel Montagna et l'homme de théâtre Hugues Massina.
À cheval entre les constellations australes de Dorado et Mensa, nous nous attardons dans le grand nuage de Magellan. Un corps fantôme de dragon, à la gueule grande ouverte, menace géante et supergéante rouge. Ça finira mal, comme pour N132D, cette grande étoile toujours plus grosse et plus lumineuse. On la regardait tous avec envie, et puis un jour, pan, elle explosa. Un spectacle grandiose, du jamais vu, onde de choc phénoménale, des atomes en roue libre partout, expulsion de gaz et tout le tremblement, ça ne vous dit rien? Voyons, c'était il y a 3000 ans. Finalement, dans le grand nuage de Magellan, on naît et on meurt, comme dans la Voie lactée.
Les étoiles naissent et meurent dans toutes les galaxies, Thierry Foglizo, sauf que toutes ne deviennent pas des supernovas et non pas des explosions aussi, aussi terribles.
Alors effectivement, c'est important de distinguer en fait, ce qu'on appelle les étoiles massives, qui vont mourir en supernova de façon très spectaculaire. Quand on dit qu'elles sont massives, on veut dire qu'elles sont au moins, disons, 8 fois plus massive que le Soleil.
8 Donc, fois plus massive.
Oui, on n'est pas très sûr de la valeur exacte du seuil, mais en fait, il existe un seuil entre 8 et 9 masses solaires, au-delà duquel la mort de l'étoile est très violente, spectaculaire, qu'on appelle donc une supernova, et en dessous, et qui donne comme résidu au centre de l'explosion un astre compact très très dense, qui est l'astre le plus compact qui existe juste avant le seuil de formation d'un trou noir. Donc c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons, qui fait plus d'une fois et demie la masse du Soleil.
Oui, bon, c'est une énergie considérable.
Oui, c'est surtout une densité extraordinaire. Et qui fait typiquement 10 km ou 12 km de rayon, c'est minuscule, mais ça contient plus d'une fois, disons 1,5 fois la masse du Soleil. Et inversement, les étoiles plus légères comme le Soleil meurent de façon, elles gonflent, mais de façon moins violente, elles gonflent et vont former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Ça n'a rien à voir avec les planètes, mais ça fait un nuage qui s'étend comme ça, qui fait des magnifiques photos astronomiques. Et au centre de cette expansion en nébuleuse planétaire, il va y avoir aussi un astre compact, mais pas aussi dense qu'une étoile à neutrons. C'est ce qu'on va appeler une naine blanche, qui va faire typiquement la taille de la Terre, quelques milliers de kilomètres de rayon, pour une fraction de la masse du Soleil.
Et comment comprendre alors l'explosion, là on revient sur nos supernovas, comment comprendre cette mort aussi explosive que ça? Enfin, c'est une explosion, mais en même temps, ça ne s'effondre pas. C'est ça que vous cherchez à comprendre, hein.
Alors, en fait, oui, la chose que l'on comprend bien, finalement, c'est le fait que ça s'effondre. Sur le plan théorique, tout le monde est d'accord pour dire que quand une étoile est suffisamment massive pour avoir formé au cours de sa vie des éléments aussi lourds que des noyaux, aussi lourds que le fer, eh bien l'accumulation de fer dans le centre de l'étoile ne peut pas durer indéfiniment. Et il y a un seuil qui a été déterminé par Chandra Sekhar. C'est environ 1,4 fois la masse du Soleil. Quand on accumule environ 1,4 fois la masse solaire de fer au centre d'une étoile, cette boule de fer ne supporte plus son propre poids et s'effondre sur elle-même. Donc tout le monde est d'accord pour dire que ça commence comme ça. Et on observe des explosions. Et il s'agit de trouver qu'est-ce qui se passe entre les deux, entre l'effondrement et l'explosion. Il y a une sorte de rebond qui est assez dur à comprendre sur le plan théorique. Et donc on sait que la matière va s'effondrer. Ce cœur de fer va s'effondrer jusqu'à trouver ce nouvel équilibre en étoile à neutrons. Donc ça va passer d'une taille typique de 1500 km de rayon jusqu'à peut-être 50 km de rayon.
Sacré effondrement, oui.
Donc on atteint des vitesses vertigineuses, typiquement un dixième de la vitesse de la lumière, avant d'être freiné par une onde de choc qui force la matière à se sédimenter sur cette étoile à neutrons. Donc on sait qu'on commence par un effondrement extrêmement rapide, extrêmement violent, qui dure une demi-seconde. Et donc il faut imaginer un objet...
Une demi-seconde.
Oui, c'est ça. Il faut imaginer un objet qui aurait la taille de la Lune. Ça serait le cœur de fer. Il a la taille de la Lune. Il fait une fois et demie la masse du Soleil, mais en taille physique, c'est à peu près la taille de la Lune. Et une demi-seconde plus tard... Il s'est rétréci en une boule de 50 km de rayon.
Et on n'est pas dans la science-fiction, on est juste dans notre univers.
Ça, sur ce point-là, on est tout à fait d'accord. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Mais une fois que cette boule de fer s'est transformée en boule de neutrons de 50 km de rayon, la matière, toute la matière qui était assise sur cette boule de fer, puisqu'on parle d'une étoile de plus de 8 masses solaires, peut-être 20 masses solaires, 40 masses solaires, toute cette matière qui est en train de tomber vers le centre, d'une certaine façon, va rebondir pour être expulsé et former une supernova avec des vitesses typiques de plusieurs milliers de kilomètres par seconde d'éjection.
Et c'est ce basculement-là que vous cherchez à comprendre. Pour le faire, parce qu'on ne peut pas observer de près une supernova, sans doute, vous avez même... vous travaillez avec une fontaine à supernova, c'est ça? Expliquez-nous un peu.
Alors, c'est ça qui est assez inattendu, finalement. C'est qu'un des mystères de cette transition entre effondrement et explosion repose sur la mécanique des fluides et sur des phénomènes d'instabilité qui vont transformer un mouvement sphérique. On parlait de sphère tout à l'heure, et l'étoile est en très bonne approximation sphérique, même si elle tourne.
Une étoile massive, elle est sphérique.
Elle est sphérique. Il y a quelques exceptions qui tournent très vite, mais la plupart tournent très lentement. Elle s'effondre sur elle-même de façon sphérique, et il se passe quelque chose qui fait que ça va exploser de travers. Et donc, c'est des instabilités de mécanique des fluides qui sont responsables du fait que ça part de travers. Et peut-être la façon la plus simple de l'illustrer, c'est un phénomène bien connu quand du vent s'écoule de part et d'autre d'un drapeau. On aurait pu imaginer que le drapeau reste bien dans l'axe et que le vent s'écoule de façon régulière, mais non, il y a un phénomène d'instabilité qui fait que le drapeau va commencer à battre et introduire des mouvements de travers.
D'accord, là je vous suis.
Eh bien, quand une étoile s'effondre, ce n'est pas le même mécanisme que pour le drapeau, mais il y a un phénomène de mécanique des fluides qui a comme conséquence que des mouvements de travers apparaissent.
Et ce sont ces mouvements-là de travers que vous reproduisez dans votre fontaine à supernova.
C'est ces mouvements de travers qui sont cruciaux en fait pour expliquer comment on passe d'un effondrement à une explosion. S'il n'y avait pas ces mouvements de travers, on ne formerait pas d'explosion, on ne ferait que des trous noirs et jamais d'étoiles à neutrons. Alors, on observe des tas d'étoiles à neutrons, on sait bien qu'il y a quelque chose qui aide à
c'est-à-dire
exploser.
C'est-à-dire que c'est soit étoile à neutrons, soit trou noir.
Oui, et même quand c'est trou noir, en fait, en général, on commence par former une étoile à neutrons, mais la matière continue à s'accumuler sur l'étoile à neutrons. Et alors j'ai dit qu'il y avait un seuil donc, de Chandrasekhar pour ce cœur de fer qui s'effondre en étoile à neutrons. Et il y a aussi un autre seuil théorique pour la masse des étoiles à neutrons. C'est-à-dire qu'une étoile à neutrons ne peut pas recevoir plus que ne peut pas peser plus que deux fois la masse du Soleil, ou peut-être deux fois et demi, on n'est pas très sûr de la valeur exacte.
Donc ça serait mort de supernova, enfin une supernova, la mort d'une étoile massive, ça donne une étoile à neutrons, et ensuite ça donne un trou noir.
Exactement, si l'étoile à neutrons devient trop massive, elle s'effondre en trou noir. Donc en général, on passe toujours par l'étape étoile à neutrons avant de former un trou noir. Mais on sait que dans peut-être 80% des cas, on ne va pas former trous noirs. Les trous noirs doivent être expliqués. On sait qu'il y a certaines circonstances où on forme des trous noirs, mais c'est des circonstances minoritaires. La plupart du temps, on a une explosion qui éjecte suffisamment la matière pour qu'il n'y ait pas plus qu'une fois et demie la masse du Soleil concentrée dans cette
étoile. Et donc, il y a une étoile à neutrons. Mais quand même, j'ai envie qu'on s'arrête un peu autour de la question « Quelle nouvelle du cosmos ?» sur la toute première photo d'un trou noir que vous avez vu, messieurs, tous les deux. L'un des objets les plus énigmatiques, quand même. Enfin, il y en a d'autres dans l'univers. Image sidérante, publiée le 10 avril dernier par un collectif d'astronomes et qui a évidemment fait le tour du monde, c'est le cas de le dire. Rappel des faits par Simon Rosé sur l'antenne de RFI, c'était le 10 avril.
Par définition, un trou noir ne peut pas être observé. Tout ce qui pénètre à l'intérieur n'en ressort jamais, même la lumière. Ce que l'on peut voir, en revanche, c'est toute la matière en train d'être absorbée, tellement déchiquetée qu'elle chauffe et qu'elle rougeoie. C'est elle qui trahit le monstre caché, comme avec des ombres chinoises. Cette masse noire, le trou noir supermassif de la galaxie M87, 6 milliards et demi de fois plus lourd que notre Soleil. Cette image est une prouesse, la preuve définitive de l'existence des trous noirs, des objets qui étaient paradoxalement déjà très étudiés. La théorie de la relativité générale avait déjà bien ouvert le chemin. Jean-Pierre Lassota, chercheur émérite CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris.
On les connaît très bien, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le trou noir, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est ce qui se passe autour du trou noir. Et puis le trou noir, par exemple, dans une galaxie, contient des informations sur l'histoire et l'évolution de notre galaxie, et même peut-être de la formation de cette galaxie.
La prochaine étape, c'est donc de voir notre trou noir, celui de la Voie lactée, Sagittarius A étoile. Il règne au centre de notre galaxie, et son étude nous permettrait d'en connaître les origines.
On n'en est pas encore là, Roland Lehoucq, mais comment vous avez réagi devant cette photo, cette image du trou noir au centre de la galaxie géante M87?
Ah ben j'étais tout à fait content et étonné de la voir, parce que c'était évidemment d'abord une grande première et un grand exploit technique, scientifique, de pouvoir produire cette image. Et une aventure humaine aussi, puisqu'il y a 200 personnes qui ont collaboré étroitement, plusieurs observatoires à l'échelle mondiale qui ont collaboré pour former cette image. Et donc oui, c'était toujours l'enthousiasme que peut avoir un scientifique, ou les scientifiques en général, quand il y a une nouvelle découverte, qu'elle soit d'un nouveau trou noir, d'un matériau extraordinaire si on est en physique du solide, d'un état de la matière subtile si on est en physique atomique, etc. C'est toujours l'enthousiasme de la découverte et de la nouveauté scientifique.
Vous êtes d'accord, Thierry Foglizo, avec Jean-Pierre Lassota? Finalement, c'est pas tant que ça le trou noir qui vous intéresse, pas que vous ayez peur d'être absorbé, mais c'est plutôt les autour du trou noir.
Oui, alors moi je rejoins complètement Jean-Pierre Lassota sur l'intérêt astrophysique de cette découverte, pour sa capacité à nous renseigner sur l'environnement du trou noir. Donc autour des trous noirs, il y a de la matière. La raison pour laquelle on voit ce trou noir, c'est qu'il y a de la matière qui tombe dessus. Cette matière, elle peut tomber dessus avec une certaine quantité de rotation qui produit un disque. Elle peut aussi être entraînée par des champs magnétiques pour être expulsée sous forme de jet. Donc il y a toute une activité dynamique autour des trous noirs qui pose de multiples questions. Mais je rajouterai quand même que ces trous noirs ont aussi un intérêt pour la physique fondamentale, et tous les gens qui cherchent à confirmer la théorie de la relativité ou alors qui cherchent des alternatives ont un très fort intérêt pour aller sonder ces régions de champs de gravité très intenses pour essayer de confirmer ou d'affirmer la valeur de ces théories. Donc il y a vraiment deux communautés qui sont à l'affût de ces objets, la physique fondamentale et l'astrophysique.
Alors là, c'est une photo, enfin une image reconstituée hein, d'un trou noir. Est-ce qu'on pourrait imaginer, puisque cette image elle a quand même fait l'effet un peu d'une bombe, on n'avait jamais vu une image pareille, il y a 2 ans aussi la détection des ondes gravitationnelles, est-ce qu'on peut imaginer que tout ça combiné pourrait nous permettre de sonder véritablement, de comprendre mieux le phénomène des trous noirs, le phénomène de ces étoiles à neutrons, est-ce que tout ça, ça montre qu'on avance dans la connaissance et puis aussi dans l'étendue de notre ignorance, j'imagine, Thierry ?
On avance, oui, mais d'avoir cette image, c'est vraiment une confirmation très forte des théories existantes. Pour le moment, ça n'a pas amené de bouleversement, mais c'est ce qui est sûr. On ne sait pas encore quel bouleversement en physique fondamentale ça pourrait apporter, mais ce qui est sûr, c'est que ça nous apportera des indications sur l'environnement du trou noir et toute la richesse astrophysique. Alors malheureusement, pour avoir une image mieux résolue, avec plus de détails, ça va quand même prendre un certain temps. Il faut se réjouir déjà de ce pas énorme qui a été franchi.
Et pourquoi ça prendrait trop de temps? Parce qu'on ne peut pas s'en approcher d'un trou noir.
On ne peut pas s'en approcher, mais disons, la finesse de l'image est limitée par la taille du détecteur. Et pour avoir cette image-là, c'était déjà un exploit de répartir des détecteurs sur toute la surface de la Terre et donc d'avoir finalement un détecteur qui a quasiment la taille de la Terre, le diamètre de la Terre, donc 12 800 km. Et si on veut, et c'est vraiment cette taille de la Terre qui limite la précision de l'image, si on voulait une finesse de résolution plus grande, il faudrait aller dans l'espace, mettre des détecteurs en orbite autour de la Terre.
Élargir le champ.
Ça va nous demander beaucoup de patience parce que ça sera très difficile.
En même temps, on a l'impression ces temps-ci qu'à la fois on découvre l'étendue de notre ignorance, mais aussi que de nouvelles fenêtres sur l'univers sont en train de s'ouvrir, Roland Lehoucq.
Alors oui, effectivement, dans le cas du trou noir de Messier 87, c'est pas vraiment une nouvelle fenêtre, c'est un nouvel objet qu'on observe par des techniques déjà maîtrisées d'interférométrie à grande base sur la Terre, mais qui là sont destinées spécifiquement à observer ce trou noir supermassif au centre d'une galaxie lointaine. Donc là, c'est pas une nouvelle fenêtre, c'est un nouvel objet qu'on révèle, on s'attendait à ce qu'il soit là, mais simplement on commence à en voir les détails directement, donc c'est... on voit net, d'une certaine façon, on voit net.
On voit net l'invisible, en fait.
On ne le voyait pas avant, parce que faute d'avoir les bonnes lunettes, quoi, d'une certaine façon.
D'accord, donc là, c'est juste des bonnes lunettes.
Donc là, c'est juste des bonnes lunettes. Alors, dans le cas des ondes gravitationnelles, c'est vraiment, on pourrait dire, une nouvelle fenêtre, c'est-à-dire un nouveau moyen d'avoir des informations. On avait parlé tout à l'heure de la lumière. L'univers observable, c'est essentiellement sous forme de lumière que nous parvient l'information sur les objets de l'univers. Des particules, qui vont moins vite que la lumière, en général, même tout le temps. Et... les ondes gravitationnelles qui se déplacent à la même vitesse que la lumière, mais qui, elles, portent témoignage d'autres mécanismes. La lumière, c'est des phénomènes électromagnétiques, les ondes gravitationnelles, c'est des phénomènes gravitationnels. Et donc, on a une nouvelle sonde, un nouveau moyen de, entre guillemets, voir, c'est-à-dire au sens recevoir de l'information des objets. Quand vous les voyez sous forme lumineuse, ces objets, il faut que cette lumière puisse vous parvenir. Si vous êtes derrière un mur, pour dire les choses brutalement, ce qui se passe derrière le mur, vous êtes inconnu.
Si on est derrière une étoile, une planète qui est trop grosse, on ne voit plus rien.
Alors, exactement. C'est-à-dire que ça ne serait pas vraiment une planète ou une étoile, mais la matière dans le milieu interstellaire, ou même dans le milieu intergalactique, entre les galaxies, est très diluée. C'est quasiment le vide, mais sur des milliers ou des millions d'années-lumière, finit par être suffisamment opaque pour qu'on ne voit pas les objets. D'où l'intérêt d'observer le trou noir de 87, mais c'est 87, dans une longueur d'onde pour laquelle la matière entre la galaxie et nous est transparente. On observe en rayonnement millimétrique et pas en lumière visible, ou si on va observer le trou noir central de notre Voie lactée, on va l'observer dans une longueur d'onde, dans une lumière, pour laquelle la matière qui nous sépare du centre de la galaxie est transparente.
C'est pour ça qu'on peut voir l'invisible.
Et c'est pour ça qu'on pourra le voir. Mmh. Et donc c'est cette capacité à ouvrir ces fenêtres. Et quand on regarde en ondes gravitationnelles, on se permet de voir des objets qui n'auraient jamais été vus en lumière. Alors il y a eu quand même l'événement, parmi les détections d'ondes gravitationnelles, il y a eu l'événement, pour l'instant unique, mais qu'on espère se voir se multiplier, de la coalescence de deux étoiles à neutrons, et qu'on a pu voir détecter en ondes gravitationnelles, mais aussi voir les phénomènes électromagnétiques lumineux associés à cette coalescence. Et donc là, c'est un gain considérable.
Et pourquoi on a pu les voir? Parce qu'on savait que ça, parce qu'on a pu calculer que ça allait se passer et donc l'observer.
On pensait qu'il pouvait y avoir des contreparties lumineuses à l'émission d'ondes gravitationnelles. On a pu détecter on a détecté l'onde gravitationnelle, mais on a pu localiser dans le ciel avec une précision suffisante, qui est au regard des observations extraordinaires que font les satellites d'astrométrie, tout à fait ridicule, je veux dire très mauvaise précision, mais qui était largement suffisante pour dire « Ah, l'objet qui vient de produire cette onde gravitationnelle, il vient, c'est celui-ci que l'on voit en rayonnement gamma, que l'on voit en rayonnement X, que l'on voit en lumière visible, que l'on voit en infrarouge. » Et là, on a vu l'objet dérouler toute sa panoplie de lumière au fil du temps. Et on a pu comme ça avoir de l'événement en instantané, d'une certaine façon, pendant l'émission d'ondes gravitationnelles, mais aussi pendant toutes les autres phases de son évolution, et donc mieux le comprendre parce qu'on le regarde de plusieurs façons. Pour en revenir sur les supernovas, cher Thierry,
oui,
et sur un sujet qui moi m'avait concerné pendant ma thèse, sur la supernova 1987A, qui a explosé dans le grand nuage de Magellan, auquel faisaient référence les deux acteurs qui lisaient ce poème tout à l'heure, ce texte tout à l'heure. Eh bien, pour 87A, on a détecté, on a eu une sonde pour la première fois, avant que la lumière nous parvienne, on a réussi à détecter une grosse vingtaine de neutrinos, des particules, disons, très difficiles
qui
à détecter, qui se sont échappées, qui ont traversé l'enveloppe de la supernova, alors que la lumière était encore en train de le faire. Ils ont traversé parce que pour eux, pour ces neutrinos, cette enveloppe était transparente, alors que pour la lumière, c'était déjà un peu plus opaque, il a fallu que... Et finalement, elle est sortie. Et ensuite, elle nous parvient. Et donc, on a pu finalement voir la supernova en neutrinos avant de la voir en lumière visible. Et donc, c'est la complémentarité de ces fenêtres d'observation sur l'univers qui nous permettent finalement, des objets d'univers, qui nous permettent finalement de mieux les comprendre. Peut-être les particules, comme les neutrinos, la lumière, les ondes électromagnétiques en général, et bien sûr, les ondes gravitationnelles désormais.
On n'arrête pas le progrès pour voir loin. Et plus on voit loin dans l'espace, plus on voit loin dans le temps. Autour de la question « Quelle nouvelle du cosmos et pourquoi on tourne en rond ?», je propose de revenir maintenant dans notre galaxie pour viser la Lune carrément grâce à notre jeu concours. Vous pourrez peut-être, chers amis auditeurs, gagner un télescope pour observer notre satellite depuis votre Terre. Allez, on y réfléchit. Walking on the Moon, Police sur RFI. Walking on the Moon avec Police sur RFI autour de la question « Quelle nouvelle du cosmos en cette année lunaire ?» Nous fêterons bientôt les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Nous vous proposons donc, chers amis auditeurs et internautes, de gagner une lunette astronomique de 70 cm qui vous permettra de viser la Lune et de l'observer depuis le continent et de partager avec vos voisins cette expérience inoubliable. Alors c'est assez simple, il vous suffit de participer à notre jeu concours « Pourquoi viser la Lune ?» Règlement et bulletin de participation sur le site de RFI et sur notre page. Roland Lehoucq et Thierry Fogliso, vous ne pouvez pas participer, je suis désolée, à notre jeu concours, car il est réservé aux amateurs d'astronomie qui résident sur le continent africain, dans les Caraïbes ou l'océan Indien, mais vous avez sûrement, j'imagine, une belle expérience ou une belle manip autour de la Lune à nous faire partager. Qui commence, Thierry Lehoucq ?
Ou Roland Fogliseau.
Ou Roland,
alors,
allez.
Donc, alors.
Ah non, pardon, Roland Le Houx. Là, c'est moi qui j'en perds la tête en voulant viser la ligne.
Oui.
C'est pas Roland Le Houx, ça va
du
être...
Du coup, c'est bien dommage qu'on puisse pas participer parce que vous avez une lunette de 70 cm de diamètre, ce qui est un remarquable diamètre. C'est parmi les plus grosses lunettes du monde, anciennes, du 19e siècle. C'est plutôt 70 mm de diamètre que vous voulez dire, une lunette de 7 cm de diamètre.
Ah oui, vous voyez,
qui est une jolie lunette déjà.
Là. Donc c'est 70 mm de diamètre. Merci.
Ce sera une très jolie lunette de 7 cm de diamètre, donc, et qui sera déjà bien supérieure à celle dont disposait Galilée, qui pendant l'hiver 1609-1610 a braqué une lunette de, pense-t-on, quelque chose comme 5 cm de diamètre vers la Lune en particulier, et a vu des choses extraordinaires. Donc ça veut dire qu'avec une lunette de 7 cm de diamètre, l'auditeur ou l'auditrice qui gagnera cet objet technique, va faire des observations tout à fait spectaculaires. Il va retrouver l'ambiance que Galilée avait quand il a vu les satellites de Jupiter, la surface de la Lune et la Voie lactée.
Et en plus, il va partager ça avec ses voisins.
Avec ses voisins, bien sûr.
Voilà, voilà. Thierry Fogliseau, là je ne me trompe pas de prénom, vous avez une petite expérience avec la Lune,
oui.
Vous-même, si vous vouliez participer à ce concours, vous nous écririez quoi?
Oui, ben, en fait, c'était une expérience que j'avais conçue pour des collégiens de quatrième. Et c'est une expérience étonnamment simple qui consiste à mesurer la distance entre la Terre et la Lune, simplement en prenant des photos de la Lune à différents moments de la nuit. Et parce que la Lune, en fait, est remarquablement proche de la Terre. Elle est, la distance Terre-Lune, c'est 60 fois le rayon terrestre, environ. Et donc, quand la Terre tourne sur elle-même, la distance de l'observateur qui se trouve à la surface de la Terre se rapproche d'une fraction de rayon terrestre ou s'éloigne d'une fraction de rayon terrestre. Et donc, l'image de la Lune vue dans le ciel change, sa taille apparente change au cours de la nuit, par la rotation de la Terre.
Donc en faisant des photos, on peut reconstituer...
C'est ça. En fait, en faisant des photos, à condition qu'on utilise une lunette de 7 cm et un bon appareil photo, mais maintenant les appareils photo ont beaucoup, beaucoup de pixels, on peut mettre les photos côte à côte et s'apercevoir que la taille apparente de la Lune sur les photos a changé. Et si on a pris soin de repérer la hauteur de la Lune sur l'horizon, on mesure en degrés la hauteur de la Lune sur l'horizon, entre ces deux photos, on peut calculer la distance Terre-Lune simplement en unité du rayon terrestre, ce qui est remarquablement simple à faire.
Oui. Pour les photos, il y a une chose qui est tout à fait stupéfiante maintenant avec les détecteurs modernes, c'est-à-dire qu'on peut regarder la Lune à la lunette, mettre l'œil à l'oculaire, comme Galilée, regarder, ah, la Lune, c'est magnifique, mais après, vous prenez votre appareil photo de téléphone portable, et vous mettez la petite lentille de l'appareil photo à la place de l'œil, vous appuyez sur le bouton et ça fait déjà une photo tout à fait exploitable, remarquable et intéressante de la Lune avec des moyens tout à fait rudimentaires.
Avec une lunette astronomique
et un téléphone portable qui dispose d'un appareil photo de téléphone portable. Donc,
chose d'assez rudimentaire. Mais il faut mettre son œil d'abord pour bien mettre le viseur.
Vous mettez votre œil d'abord pour que ça soit net et puis pour mettre net et puis pour être sûr que la Lune est bien dans le champ de la lunette, sinon vous photographiez le soin, vous faites rien. Et puis on met son appareil photo, on le laisse se débrouiller, la Lune est un objet suffisamment brillant et dans une lunette avec ce diamètre que vous proposez, il y a une luminosité qui sera tout à fait acceptable et vous tentez la photo et vous allez voir ce qui sort, c'est stupéfiant, on voit les cratères comme on le voyait à l'œil, mais vous avez une trace numérique.
Eh bien notre lauréat, notre gagnant, il nous enverra, je l'espère, des photos faites à partir de cette lunette. Merci infiniment à vous deux, merci, je ne vais pas me tromper de prénom cette fois-ci, merci Thierry Fogliseau, merci Roland Le Houx d'être venu partager toutes ces expériences et puis de nous avoir fait partager également les dernières nouvelles du Cosmos dans la revue clé du CEA de ce mois d'avril et vous revenez quand vous voulez pour nous raconter de nouvelles du Cosmos.
Merci. Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Lundi, c'est mon complice Antonio Fischetti qui me remplacera à ce micro avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. D'ici là, surtout portez-vous bien et restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.